Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business présente.
Tous les jours, on entend quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
18h, il sera quelques heures, 18h dans quelques secondes, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on va reparler du dossier casino. Oui, mais sauf que là, c'est une étape assez importante, puisque figurez-vous que la justice vient de valider le plan de sauvetage du groupe Casino. Ça veut dire que cette fois, Daniel Kretinsky et ses associés ont vulgairement parlant les clés du camion désormais. On va voir ça bien sûr dans un instant. Sinon, grande question ce soir, les prix planchers sur les produits agricoles tels que les a annoncés Emmanuel Macron samedi dernier. Est-ce que c'est possible par rapport à la loi, par rapport à la concurrence ? C'est une question dont on va largement parler ce soir, bien sûr, et puis on en parlera dans 10 minutes. Puisque Thierry Blandinière, le directeur général du groupe Invivo, sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Dans la grande interview, on parlera aussi ce soir de Renault qui a enfin dévoilé sa R5 électrique au Salon de Genève et qui en attend beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup apparemment. Et puis ce rapport qui est sorti en France aujourd'hui qui suggère tout simplement de taxer les milliardaires européens à hauteur de 2% de leur patrimoine. Tout ça rapporterait la bagatelle de 40 milliards d'euros. Voilà le programme. Non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
Good Evening Business, le journal.
Donc, c'était attendu. Eh bien, c'est officiel depuis environ une heure. Bonsoir, Pauline Tadevin.
Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à tous.
C'est officiel. La justice valide le sauvetage de Casino. Décision qui ouvre la voie à une prise de contrôle du groupe par Daniel Kretinsky et ses associés. En clair, ce sont eux, ça y est, qui ont les clés du camion, Pauline, finalement.
Oui, alors forcément, le consortium de repreneurs, comme vous le disiez, qui est mené par Daniel Kretinsky, mais il y a aussi dedans Marc Ladrelle-Lacharrière, ouais, ou le fonds britannique Attestor, se réjouit de cette décision du tribunal dans un communiqué. D'après Daniel Kretinsky, après des semaines si incertaines où la menace était de disparaître, le moment va venir de redonner des moyens et par là même du souffle, dit-il, au groupe Casino, redimensionné, réorganisé et désendetté. Il estime aussi que le chemin sera encore long, avec des moments difficiles et requerra beaucoup d'efforts de tous, mais il ne doute pas du succès de l'opération. L'intersyndicale que nous avons contactée explique qu'elle n'attendait pas finalement une autre décision du tribunal de commerce de Paris. Elle la juge rassurante dans le sens où ça permet d'éviter un redressement judiciaire. Elle espère aussi, l'intersyndicale, que ce feu vert judiciaire va permettre à l'équipe de repreneurs de sortir du bois et de leur apporter enfin les informations qu'ils demandent au niveau social, notamment sur l'accord de méthode, le PSE ou encore l'avenir des entrepôts désormais. Cette nouvelle équipe, donc vous l'avez dit, elle a les clés du camion, vulgairement parlant. Elle sera officiellement propriétaire le 27 mars, mais dès maintenant, elle peut accéder directement aux équipes, aux locaux, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire jusqu'à maintenant. Il y a un certain nombre de données auxquelles elle n'avait pas accès, ce qui va sûrement lui permettre d'être plus précise justement avec les syndicats. Courant mars, il va y avoir les différentes augmentations de capital, et puis, dans la foulée de la prise officielle de pouvoir fin mars, un conseil d'administration, la nomination de l'équipe qui entourera Philippe Palazzi. Le consortium promet un plan ambitieux de réorganisation, d'investissement et de modernisation pour redresser donc ce qui reste du groupe Casino, recentré sur Monoprix, les anciennes de proximité et ses discounts.
Merci beaucoup, Pauline. Voilà pour ce plan de sauvetage validé par le tribunal de commerce concernant Casino. Vous restez avec nous, Pauline. On va parler de ces prix planchers dans un instant qui suscitent beaucoup d'interrogations 48 heures après les annonces d'Emmanuel Macron. Écoutez, par exemple, sur place, le directeur des achats de Danone aujourd'hui, croisé au Salon de l'agriculture, qui ne voit pas trop comment tout ça pourrait s'appliquer concrètement. Écoutez, Nicolas Douchet.
Il n'y a pas de prix unique du lait. Nous négocions et nous discutons, co-construisons nos formules de prix avec nos organisations de producteurs par région. Donc on est ancré dans des territoires autour de nos bassins de collecte. Hein. On collecte le lait à environ 60 km autour de nos usines. Et donc la réalité d'un bassin en Normandie ou autre part en France n'est pas la même. Donc le prix unique pour nous est compliqué à aller chercher.
Voilà, Nicolas Douchet, directeur des achats de Danone, assez circonspect ce matin. Pauline, c'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est jouables ces prix planchers ou est-ce qu'on s'est emballé un petit peu vite?
Alors, il y a ce que dit cet intervenant qu'on vient d'entendre. Et il y a aussi la Fédération des coopératives laitières qui dit carrément que c'est contraire au droit de la concurrence d'instaurer un prix plancher. Il y a un autre gros acteur du secteur qui s'interroge sur la formation du prix final hein, pour le consommateur et aussi sur la possibilité que la puissance publique doive mettre la main à la poche pour compenser. Ouais. Et puis, il y a d'autres qui mettent en avant le risque de favoriser les importations ou d'autres qui assurent aussi que cette idée va bénéficier aux gros exploitants au détriment des plus petits. Ce qu'a dit concrètement le chef de l'État samedi, c'est qu'il voulait un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel le distributeur ne peut pas le vendre. Ouais, voilà, ouais, ça c'était ouais. La définition basique d'Emmanuel Macron. L'Élysée nous dit aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas aller plus loin dans la définition, qu'il y a une mission parlementaire qui est lancée sur Egalim et qui doit rendre ses décisions d'ici l'été, que tout ça donc va se réfléchir d'ici là, que Bercy a le dossier en main, qui va parler avec tous les représentants du secteur agricole. La porte-parole du gouvernement, elle est un petit peu plus loin ce matin. Elle assure qu'il s'agit de mettre en place des prix sur la base des coûts de production par filière, sur la base des indicateurs qui sont mis en place par les interprofessions, avec des méthodes agiles pour s'adapter aux évolutions du marché. Voilà ce qu'a dit concrètement. Ce qui évite effectivement de tomber dans la définition de ce que disait la France insoumise. On va un petit peu plus loin. Voilà, on parle d'agilité. Reste à définir concrètement ce que ça va être. Et encore une fois, même du côté de l'Élysée aujourd'hui, on nous dit qu'on en est au début du chemin et qu'on en saura plus d'ici l'été.
Merci beaucoup, Pauline. Bon, en tout cas, on avance et on a appris toujours concernant ce dossier agricole qu'il y aura une réunion d'urgence demain à Bercy autour de Bruno Le Maire pour faire le point sur l'état de santé de la trésorerie des agriculteurs, la manière de les aider. Il y aura des représentants du fisc, il y aura des représentants des banques, des assureurs et de la MSA pour parler de tous ces sujets. Et puis, pendant ce temps, à Bruxelles, les 27 ministres de l'Agriculture sont en train de plancher un peu en urgence, là aussi, pour simplifier les règles de la PAC. En plus de ce qui a été annoncé récemment sur les jachères, la question d'une possible restriction des importations ukrainiennes est aussi sur le tapis. Vous le voyez si vous le regardez à la télévision. Les abords de la Commission européenne ont été envahis par des centaines d'agriculteurs venus de toute l'Europe. 18h05, grande journée pour Renault qui a dévoilé à Genève, je vous le disais, sa nouvelle R5 à batterie. Elle sera lancée à un prix de base de 25 000 euros hors bonus. Ça a été rendu possible, expliqué aujourd'hui Luca De Meo, par le fait que de plus en plus on réduit le nombre de pièces pour construire ces véhicules électriques. Écoutez le DG.
Nous, on a en moyenne 1600 pièces par voiture dans une voiture classique. Et là, on est déjà en dessous des 1000 et on va viser les 700 pièces pour construire une voiture électrique. Donc, plus c'est simple, plus ça va vite. Donc, on va faire moins de 10 heures à Douai pour fabriquer, alors que normalement, on met 20 heures pour fabriquer une voiture. Et s'il y a moins de pièces, il y a moins de complexité, moins de diversité. Et c'est ça aussi l'opportunité que l'électrique nous donne.
Voilà, Luca De Meo, donc le directeur général de Renault avec Pauline Ducamp, du côté de Genève. Luca De Meo qui a donc présenté, je cite, cette R5 comme l'emblème de la relance du groupe. Et puis, dans l'actualité des entreprises, grosse acquisition pour Iliad, la maison mère de Free. Le groupe de Xavier Niel va entrer au capital de l'opérateur suédois Tele2. Il en prend quasiment 20%. Montant de l'opération dépasse le milliard d'euros. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vient faire Xavier Niel chez Tele2 concrètement, Mathieu?
Écoutez, c'est une acquisition importante. Alors au-delà de ce qu'est Tele2, un opérateur suédois qui était un peu présent en France il y a maintenant une vingtaine d'années, c'est vraiment le fait que Free et Xavier Niel étendent vraiment leur empire des télécoms depuis maintenant 6-7 ans un peu partout en Europe. Alors il est présent dans 22 pays dans le monde. Il y a des petits pays, mais il y a aussi des gros pays en Europe. Et c'est là qu'il commence à tisser la toile et à être assez grand. Il y a évidemment la France, l'Italie, dans laquelle il s'est imposé en 2018, l'Irlande, la Pologne, plus récemment. Là, il entre en Suède. Et puis, à travers ses sociétés personnelles, donc à côté de Free, mais finalement c'est la même chose que Xavier Niel détient 100% de Free aujourd'hui. Il est aussi présent en Suisse par exemple, ou à Monaco, et il n'arrête pas, il est absolument sur tous les fronts, hein. Il a racheté il y a un mois un opérateur en Ukraine. Il a quand même osé le faire en pleine guerre, c'est assez osé, hein, puisqu'il a aussi un opérateur qui s'appelle Play en Pologne, et il s'est rendu compte évidemment qu'il y avait énormément de communication entre la Pologne et l'Ukraine, et donc il a décidé de s'implanter en Ukraine. Il a aussi quelques déconvenues, il n'a pas que des succès, puisqu'il reste très offensif. En Italie notamment, oui. Il n'arrive pas à consolider le marché. Hein, Free est arrivé en Italie en 2018, a vraiment cassé le marché comme il l'avait fait en France il y a 10 ans, dans le mobile. Et là, il essaie de le consolider, il n'y arrive pas. Il essaie de racheter à deux reprises la filiale de Vodafone en Italie. Ouais. Puis Vodafone a refusé par deux fois. Et puis dernière chose, là, ces dernières semaines, il essaye de racheter la filiale d'Altice au Portugal, hein, qui est englué dans un scandale de corruption. Pour le moment, le procès est en cours et on verra bien ce que ça donnera dans les mois qui viennent.
Voilà, Xavier Niel qui, comme on continue en tout cas, à tisser sa toile irrémédiablement en Europe. Pas que, mais aussi en Europe. Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. 18h09, on va sur les marchés retrouver Clémence Tanguy à Euronext. Bonsoir Clémence, on a terminé en baisse pour débuter la semaine sur l'indice parisien.
Oui, exactement. Le CAC a clôturé en très légère baisse aujourd'hui, -0,46%, 7929 points. Alors parmi les plus fortes progressions de la séance, on note Thales à 2,32%, Eurofins Scientifique plus 1,07% ou encore Renault et sa fameuse R5 électrique à plus 0,59%. Carrefour est la lanterne rouge du CAC et affiche une baisse de 3,87%. Les 8000 points restent l'objectif malgré tout. Ils pourraient bien être atteints dans les jours à venir. Les marchés boursiers oscillent autour de leur record en attendant la publication d'indicateurs macro décisifs cette semaine, qui pourraient servir de relais de croissance, comme l'inflation en zone euro, mais aussi l'inflation aux US et l'estimation de la croissance US pour le T4 2023. Rappelons aussi que la saison des résultats, même si elle touche à sa fin, n'est pas encore tout à fait finie et qu'il y a plusieurs grands noms de la côte française qui vont se plier à l'exercice très prochainement. On peut notamment penser à Bouygues, Edenred, Veolia, Saint-Gobain, Worldline, Valeo, Eiffage, Air France KLM ou encore Vallourec. Toutes ces publications pourraient soutenir les cours si les résultats étaient à la hauteur des attentes des investisseurs, bien sûr. Alors, côté US, c'est très flat aussi. Alors, le Nasdaq Composite est à 0,13%, une petite baisse, -0,02% sur le Dow Jones et -0,11% sur le S&P 500. Là aussi, les marchés reprennent leur souffle après les valorisations records de la semaine dernière.
Merci beaucoup Clémence Tanguy, donc à Euronext pour BFM Business. 18h10, Thierry Blandinière, le directeur général d'Invivo et l'invité d'Eddie Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir est quelqu'un qu'on présente souvent comme l'homme le plus puissant de l'agriculture française. Bonsoir Thierry Blandinière.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous, surtout que vous rentrez d'Australie. On verra ensuite pourquoi, parce que vous avez procédé à une très grosse acquisition dans le Malte. Vous êtes directeur général d'Invivo. Alors Invivo, c'est un animal un peu hybride, puisque vous êtes, c'est l'union des coopératives. Il y a 200 coopératives, mais au total, vous faites un peu plus de 12 milliards de chiffre d'affaires. 14 500 salariés, donc c'est énorme. Et surtout, c'est qu'on vous retrouve partout. Vous êtes dans l'agriculture avec Bulgarie, vous êtes dans Soufflet Agriculture, donc vous êtes dans les céréales, négoce international, vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes dans Terract, et vous avez failli être dans Casino, puisque vous aviez fait une proposition, on s'en souvient ici, on en a beaucoup parlé encore tout à l'heure, avec Xavier Niel notamment. Lorsque vous voyez le jugement ce soir, lorsque vous voyez la manière dont tout s'est déroulé depuis que vous avez retiré votre offre, vaincu un peu par Daniel Kretinsky, j'ai envie de dire, et Marc Ladret de la Charrière, est-ce que vous dites ce soir finalement, heureusement qu'on n'y a pas été ?
Je dirais du point de vue Invivo, oui, puisqu'on avait d'autres priorités d'investissement, notamment dans le Malte. On avait 1 milliard d'euros à investir, donc il fallait choisir. Le Malte était pour nous prioritaire. Ensuite, l'état de Casino, je l'avais dit le 15 juin, quand on avait arrêté, était pour nous difficile. On voyait vraiment que les résultats se dégradaient rapidement. Et finalement, ça a été la réalité qui est arrivée. Donc du coup, tout s'est accéléré. Tant mieux si l'offre retenue a pris en main donc maintenant Casino, parce qu'il était important pour les salariés de relancer l'activité. Et je pense
Mais maintenant, tous les hypermarchés ont été vendus, il ne reste plus grand-chose, si.
Alors oui, mais pour les salariés, les hypermarchés, ils vont continuer, soit c'est Intermarché, soit chez Auchan. Mmh. C'est sûr que le groupe Casino, maintenant, est beaucoup plus petit, plus réduit, mais bon, du point de vue des salariés, c'est quand même une bonne nouvelle que l'opération aille très vite.
Oui, mais en termes de business, parce que vous êtes un businessman, Thierry Blandinière, donc est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ça a un sens, le groupe Casino ?
Ben, ça a un sens dès l'instant où il reste allié dans un groupe plus large. Je rappelle qu'il reste allié dans les achats avec Intermarché et Auchan. Donc en fait, c'est important pour eux de rester partenaire de grandes enseignes pour être dans une centrale d'achat commune.
Sinon... Il reste, tous les hyper ont été vendus, sauf 26, peut-être les plus difficiles à vendre. Est-ce que ça vous intéresse ?
Les plus difficiles à vendre. On aime bien les challenges chez Invivo, mais oui. Peut-être pas ceux-là. Non. Donc on verra les options possibles. Nous, on reste toujours ouverts aux opportunités, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui.
D'accord. On parle du salon de l'agriculture, évidemment. Je crois que comme vous rentrez d'Australie, vous n'y allez que demain. C'est le salon de l'agriculture, en fait, c'est devenu une arène politique. Est-ce que vous regrettez, est-ce que là, on est devant un grand gâchis pour la grande fête de la ferme agricole française ?
Effectivement, j'ai découvert ça en rentrant. C'est un peu triste, je pense, comme cirque, quelque part, médiatique et politique. Je crois que le Premier ministre a repris ces termes-là. Donc, tout ça, c'est un peu triste, parce que finalement, beaucoup de discussions avaient été réalisées par les principaux syndicats en amont, et on aurait pu travailler d'une manière plus apaisée ces négociations et faire une ouverture plutôt normalisée, plutôt que de rentrer dans un grand débat qui a agité beaucoup de monde et qui a énervé beaucoup de monde.
Est-ce que vous mettez la responsabilité quand même, je sais que c'est toujours difficile, surtout en France, mais sur le président de la République, sur Emmanuel Macron, qui a voulu ce grand débat avec l'histoire du soulèvement de la terre. Mais bref, est-ce qu'il fallait faire un grand débat ? Est-ce que c'était le lieu ? Non.
Je pense que c'était pas le lieu. Donc je comprends l'initiative de vouloir fédérer toute la France et recréer une unité derrière un projet de transition agricole. Pour autant, je pense qu'il fallait séquencer les choses, il fallait déjà régler les questions avec les principaux syndicats, et notamment les avancées, les points précis qui avaient été avancés, les 70 points, je crois, de la FNSEA, et de discuter avec les syndicats qui sont aujourd'hui très structurants dans le monde agricole.
Est-ce que la récupération politique du Rassemblement National, est-ce qu'elle vous gêne, est-ce qu'elle vous perturbe, ou elle vous paraît assez logique lorsque vous voyez ce qui remonte du terrain ?
Ben disons qu'il faut comprendre aussi la colère de certains agriculteurs. Donc je pense qu'il faut que le chef de l'État en a conscience, le Premier ministre en a conscience, qu'il se mobilise et qu'il réponde aux attentes des agriculteurs le plus rapidement possible. C'est la meilleure des réponses pour continuer une démocratie, on va dire, normalisée en France.
Thierry Blandinet, on essaie de voir avec vous comment on peut s'en sortir, parce que beaucoup disent, craignent, redoutent, peut-être vous aussi, que ça reparte ensuite, parce qu'en plus le président Macron a fixé un nouveau calendrier et encore 3 semaines de plus. Vous craignez que ça reparte après le salon de l'agriculture, juste comme ça ?
En fait, il faut aller très vite. Donc, si les décisions sont prises, il y a des décisions qu'on va prendre très rapidement, c'est-à-dire d'arrêter la surtransposition des normes immédiatement. C'est de la responsabilité du président de la République, du Premier ministre et du ministère de l'Agriculture. Ils peuvent prendre ces décisions très rapidement. Ensuite, ils peuvent regarder ce qui se passe au niveau européen sur les dérogations qui ont été accordées à des pays qui créent une concurrence déloyale. Donc, est-ce qu'on peut remettre à plat toutes les dérogations et ne s'aligner sur, quelque part, le moins de 10 ans pour baisser les coûts et être beaucoup plus compétitif?
Intéressant quand même, ouais. C'est ce qu'il faut.
Il faut absolument baisser les coûts, il faut être compétitif et il faut arrêter de rajouter des normes aux normes.
Alors la solution qui semble la solution un peu miracle, c'est le prix plancher. Est-ce que pour vous, le prix plancher, c'est une bonne idée ? C'est une fausse bonne idée ? On va rappeler que ça existait dans la PAC de 1992, appelée les prix garantis. Ouais. Après, certains disent, du coup, voilà, il y a eu des tonnes de beurre, on ne savait pas quoi en faire, et en plus, c'est les frigidaires de l'Union Européenne. Vous, le prix plancher, est-ce que c'est une solution ? Vous êtes partout, vous êtes de tous les côtés, vous.
Pour moi, le prix plancher sera difficile à appliquer. Alors après, chaque filière, effectivement, agricole, prendra ses responsabilités. S'agissant de la filière céréalière, je crois que ce ne serait pas d'actualité, parce que nous sommes sur un marché mondialisé. Non, je rappelle qu'une tonne sur deux produite en France est exportée, donc c'est un non-sujet pour nous. Donc il faut que nous, on s'organise différemment dans la filière céréalière. On ne peut pas rentrer dans ces négociations de prix plancher.
Ok, mais sur des plus petites exploitations agricoles, est-ce que ça vous paraît possible d'avoir des prix planchers pour certains déjà, et pas pour d'autres?
C'est un marché protégé, donc ça sera peut-être au niveau régional, des circuits courts, il peut y avoir des exceptions culturelles françaises, on peut le dire, mais ça restera marginal pour moi, parce qu'on est sur un marché ouvert, parce que ça n'a pas de sens, parce que s'il y a un prix plancher, à un moment donné, il sera trop cher ou pas assez cher, et donc ça aura des conséquences sur les importations. Donc, du coup, si on est plus compétitif, finalement, parce qu'on a des prix planchers, les importations continueront à augmenter effectivement en France et en Europe. Et donc ça va perturber encore plus l'agriculture française. Donc il ne faut pas faire rêver les gens avec un prix plancher qui, pour moi, n'est pas la bonne solution.
D'accord. Donc les grands accords internationaux, parce que vous, enfin, je disais que vous êtes partout. Vous rentrez d'Australie, vous êtes un grand céréalier, vous êtes une multinationale. Et en même temps, vous êtes à la tête d'une union de coopératives. qui est faite d'agriculteurs. C'est là où je dis que c'est presque contradictoire par rapport à tous les débats qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est grand, ces grands accords, est-ce qu'il faut le Mercosur, est-ce qu'il faut le signer ou pas?
Alors il faut le renégocier, il faudra trouver un accord, puisqu'il faut qu'on soit dans l'international, dans la mondialisation. Alors c'est vrai que la mondialisation heureuse, c'est fini, que pour autant, l'économie mondialisée existe. Il faut savoir peut-être négocier différemment, créer des rapports de force. Organisons-nous en Europe pour créer des rapports de force, pour mieux négocier ces accords internationaux, et ne pas les subir. Donc je pense que l'union fait la force, hein, on est d'accord. Donc à partir de là, il faut être ensemble avec les Allemands, se réunir avec une vraie politique agricole compétitive qui est en capacité d'exporter, de prendre des parts de marché et de rivaliser avec les grands opérateurs.
Ok, mais on voit bien que c'est pas le modèle dont veulent les agriculteurs français en ce moment. C'est pas celui-là.
Alors moi, je pense qu'il faut. Vous avez plusieurs agriculteurs, plusieurs types d'agriculteurs.
Ceux qu'on entend, ceux qui ont l'air les plus touchés, qui ont été sur les barricades,
qui sont montés à Paris. Je comprends aussi certains agriculteurs. Dans des petites fermes qui ont besoin d'avoir suffisamment d'oxygène, de trésorerie pour continuer leur activité. Pour autant, si on parle des céréaliers, vous avez une autre approche du marché.
Ah non, mais bien
et
sûr.
Et donc, à partir de là, c'est pas le même type d'agriculteur, c'est pas les mêmes réponses qu'il faut apporter à la crise actuelle.
Oui, mais est-ce que c'est pas tout le problème, là, que vous êtes en train de souligner ou de pointer du doigt, Thierry Blandinière? C'est qu'en fait, il y a plusieurs agricultures. Il y a les grands céréaliers, comme vous, comme Arnaud Rousseau, hein, du reste, le président de la FNSEA. Et puis, il y a le reste des exploitations. Il y a 400 000 exploitations agricoles, mais il y en a de toutes les sortes. On voit que ça va être difficile de trouver une gestion de crise, une sortie pour tout le monde qui soit la même. C'est même impossible, en fait.
C'est exactement ça. C'est pour ça, quand on parle d'une solution un peu cliché comme prix plancher, ça n'a pas de sens. Parce que vous voyez, on parle de plusieurs agriculteurs. Ouais. Donc maintenant, il faut regarder filière par filière et apporter des solutions à chaque filière. Chaque filière a sa problématique. Donc, il faut faire du sur-mesure, il faut être spécifique, prendre en compte la réalité du terrain.
Vous êtes, je le disais, vous êtes agriculteur dans l'industrie agroalimentaire, vous êtes aussi dans la grande distribution. En fait, où sont les meilleures marges? Qui s'en met, où sont les meilleures marges?
Alors après, ça dépend comment ça se passe.
Non, mais surtout, chez vous, par exemple, prenons chez vous.
Quand on regarde...
Est-ce que vous gagnez l'argent?
Ça dépend des moments. Quand les coûts remontent, forcément, les céréaliers gagnent plus d'argent. Alors, en même temps, ils ont aussi des charges supplémentaires, parce que je rappelle que les engrais sont montés, etc. Donc, mais pour autant, ils ont eu plus de trésorerie. Là, on est dans un phénomène où finalement, ceux qui avaient plus de marge, maintenant, vont devoir assumer la baisse des prix. Puisqu'on est maintenant sur des cours de céréales qui sont passés en dessous des 200 euros. Pour autant, les charges sont toujours plus ou moins là. Et donc là, il y a quand même un effet ciseau devant eux qui est considérable si je prends les céréales. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les tarifs ont été passés. Donc première transformation, deuxième transformation, grande distribution, consommateur. Donc c'est arrivé à 15% ou 20% d'augmentation. Donc là, il va y avoir un reflux qui va s'organiser sur 2 ans. Progressivement, mais on ne va pas revenir au prix d'avant, parce que vous savez que les salaires ont augmenté, les charges ont augmenté, donc on n'est pas revenu au prix d'avant. Pour autant, il va y avoir certainement une déflation douce qui va s'opérer d'ici la fin de l'année.
Oui. Et donc
en termes de marge,
vous répondez pas complètement à ma question,
pour voir
qui est responsable
parce que,
de cette crise. Quoi.
En fait,
c'est ça qu'on cherche.
C'est une question de décalage. Quand vous achetez, vous vendez, il y a un moment donné, il y a un décalage. Donc du coup, quand vous vendez à un bon prix, finalement, vous achetez moins cher, donc vous avez plus de marge. Mais après, quand vous rebaissez, vous achetez plus cher. Donc vous êtes toujours dans ce mouvement perpétuel. Nous, on voit bien, des semences jusqu'au retail, comment circule la marge. Donc on a bien vu sur 2 ans comment les choses se sont passées. Et en fait, petit à petit, les marges sont reconstituées par rapport à un niveau de départ, en fait. Mais on a dû gérer une volatilité considérable des cours aujourd'hui.
Est-ce qu'il faut supprimer les centrales européennes qui sont dans le collimateur, notamment de Bruno Le Maire, est-ce qu'il faut les interdire dans la loi Egalim 4?
Mais moi, je vois pas comment, au niveau européen, on peut interdire ces centrales, enfin, d'un point de vue légal, franchement, je ne sais pas. Elles ont toujours existé, ces centrales européennes. Elles ont toujours existé et servent beaucoup à négocier les grandes marques, en fait. Et donc, en fait, pour négocier avec des grandes marques internationales, américaines notamment, elles peuvent apporter quand même un plus dans la négociation pour baisser le prix du Coca-Cola en France, par exemple. Donc, il faut aussi voir ça comme un effet positif. Ce n'est pas le petit agriculteur qui va négocier au niveau des centrales européennes. Ça n'existe pas.
Quel va être, après on parlera d'Invivo, mais quel va être votre apport à cette sortie de crise, Thierry Blandinière? Encore une fois, comment vous le voyez, sachant qu'on vous présomme comme l'homme le plus influent et puissant de l'agriculture française?
Mais nous, ce que l'on souhaite dans un premier temps, c'est que les normes soient évoluent, en fait. D'accord. Notamment le Green Deal. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, avec le programme Farm to Fork, qui était un programme qui est toujours un programme de décroissance. C'est-à-dire qu'objectivement, sur le long terme, on baissait notre agriculture dans son potentiel de 20%. Donc c'est énorme quelque part. Et l'étude d'impact a été réalisée par les Américains qui ont dit, bonne nouvelle, finalement, on va pouvoir vendre plus en Europe. Ça, c'est plus possible. Il faut changer le Green Deal. Il faut être toujours dans cette logique de transition. Il ne s'agit pas de revenir à l'agriculture d'avant, mais trouver une nouvelle agriculture, produire plus, c'est essentiel, pour donner de l'espérance aux agriculteurs, dire politiquement qu'il faut produire plus, mieux et durable. Et ça, c'est possible aujourd'hui.
Le résultat des courses, on verra dans 3 semaines, paraît-il. Ça va être un peu compliqué, on a le sentiment. Donc, c'est pas pour tout de suite la résolution de cette crise. Invivo, vous rentrez d'Australie, je le disais. Vous avez procédé, c'était en décembre 2023. Grosse opération de plus d'un milliard en rachetant le Malte, numéro 1 du Malte, United Malte, en Australie. C'est, en même temps, c'est un moment où les cours sont un peu compliqués, non, du Malte.
Oui, alors bon, là aussi, la consommation de la bière ralentit un peu, oui. Parce qu'avec l'inflation, les grands brasseurs qui sont nos principaux clients, on recule. Donc on n'a pas la croissance mécanique du moment du rachat, c'est-à-dire il y a un an. Pour autant, quand on discute avec nos clients, ils espèrent quand même une relance de l'activité, certainement d'ici juin à septembre, pour retrouver les volumes et repartir sur une croissance forte à l'échelle mondiale. Donc nous, on est ravis de cette opération. Ça nous positionne, je rappelle, numéro 1 mondial. On a une super plateforme maintenant. On se retrouve dans l'ensemble des grands pays pour accompagner nos grands clients. Brasseurs, mais aussi distilleurs. On était en Écosse il n'y a pas si longtemps. On est le premier malteur pour les whiskies écossais. Donc, c'est quand même très intéressant que ce soit des Français.
Belle position.
Belle position, belle niche rentable. Donc, un vrai projet de création de valeur et de valorisation, surtout des filières d'orge brassicole qui représentent l'excellence française.
Le reste de l'activité sur 2023, est-ce que l'activité céréalière, elle s'est plutôt... Tiens, une question, parce que justement, à propos des céréaliers, du cours du céréal et cours du blé, on se pose beaucoup la question sur l'influence russe, qui, en fait, provoque la baisse des cours. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est une question, un problème pour vous?
Il y a un deuxième marché parallèle qui s'est organisé par Dubaï, qui est déconnecté du prix de Chicago. Et donc là, Poutine utilise le blé russe comme une arme géopolitique, notamment avec les pays africains et les BRICS.
Et ça déstabilise le marché. Est-ce que ça vous déstabilise, vous, Invivo?
Ça nous pose quelques problèmes, effectivement, puisqu'effectivement, on doit vendre moins cher pour sortir le blé français aujourd'hui. Et on le fait à contre-marge, vous voyez, donc c'est aussi là, c'est notre mission, donc on le fait à contre-marge parce qu'il faut sortir le blé français. Après, on se débrouille pour faire des péréquations dans le groupe pour avoir quelque part une rentabilité solide à la fin. Mais on fait l'effort actuellement pour maintenir les volumes et les parts de marché. Donc, tout ça, c'est pour subir le blé russe qui aujourd'hui est très puissant. Je rappelle, 70 millions de tonnes exportées sur l'ensemble de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et c'est très difficile pour nous. Et notamment l'Algérie, qui était notre principal client, a switché en partie sur du blé russe. Donc, on a quand même devant nous des difficultés à surmonter.
Oui, donc l'influence russe, c'est un vrai problème quand même. C'est,
oui.
C'est une arme indirecte, mais une vraie arme de la part du gouvernement. 2023 aura été une année comment pour Invivo? Donc, avec des cours un peu chahutés.
On sort, alors vous savez, on clôture au 30 juin.
Oui, vous êtes
on a sorti des bons résultats. Après, on va voir l'atterrissage au 30 juin.
Mais là, ça fait un premier semestre.
Oui, le premier semestre, on est plutôt bien. Mais je suis plutôt inquiet par le semestre qui est devant nous, parce que finalement, on a, comme je disais, un effet ciseau qui nous arrive, avec des charges qui ont monté, et puis des cours qui baissent. Donc, il va falloir gérer la déflation. Ce qui n'est pas un moment facile à gérer dans le trading de céréales.
Oui. Un endettement quand même trop élevé pour vous, c'est un peu de l'objectif sur 2024.
Avec nos banquiers et nos partenaires financiers, on est alignés, c'est-à-dire qu'on délivre à chaque fois nos résultats, nos covenants financiers. On a financé par la dette, donc c'est normal qu'on soit endetté au maximum possible. Maintenant, il faut délivrer notre plan à 5 ans et on va se désendetter.
Oui. Merci beaucoup Thierry Blandinière. Donc bon salon de l'agriculture, parce que là je pense qu'on va vous poser quand même beaucoup beaucoup de questions. Puis on voit que la sortie de crise, c'est pas pour tout de suite. Le patron d'Invivo est notre invité.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h33, bienvenue dans les experts du soir. Nous accueillons Emmanuel Lechypre, bonsoir.
Bonsoir.
Pauline Tadevin, nos experts maison. Edwige Chevrillon, nous parlons tout de suite avec vous de cet échange que vous venez d'avoir avec Thierry Blandinière. Donc, je rappelle que c'est le directeur général de Invivo. Invivo, c'est cette union de coopératives agricoles qui est en gros, on peut dire, un des acteurs les plus importants et les plus puissants du secteur en France. Alors lui, il a été très cash, il le dit, les prix planchers, c'est une mauvaise idée.
Oui, Thierry Blandinière, c'est intéressant, c'est qu'il couvre un peu tous les secteurs et à tous les niveaux, c'est-à-dire que ça soit la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, les agriculteurs, parce qu'effectivement, il est à la tête de 200 coopératives, donc il est un peu à tous les niveaux. Et pour lui, il y a les deux points qui paraissaient pourtant les points importants pour le gouvernement pour sortir de crise, c'était le prix plancher, l'instauration d'un prix plancher. Lui, il dit, ça sert absolument à rien, parce que de toute manière, on est tous dans la mondialisation. Mmh. Alors, lui, le premier, parce qu'il est céréalier, donc c'est sûr que c'est pas le petit agriculteur du Lot-et-Garonne.
C'est sûr.
Mais cela dit, c'est pour ça qu'il dit, il faut peut-être des prix planchers régionalement. Là, on peut peut-être trouver un accord, mais enfin, oui, comme vous dites, Guillaume, c'est quand même très compliqué à trouver. Oui. Donc, pour lui, ça n'a aucun sens. Et puis, l'autre point important, c'est la suppression, enfin, en tout cas, important aux yeux de Bruno Le Maire, c'est la suppression des fameuses centrales d'achat européennes. Ouais. Et il dit non, parce que les centrales, du reste, que nous avait très bien expliqué de Michel Cher ici même, lorsque je l'avais reçu, le patron de Système U, les centrales d'achat européennes, elles sont faites pour négocier avec des grandes marques internationales, les Colgate, toutes les Mars, enfin, toutes les grandes marques. Donc, et puis de toute manière, ce n'est pas le gouvernement français qui peut décider de les supprimer. Mmh. Donc elles sont quand même très utiles.
Oui, alors sauf quand même que les centrales d'achat européennes, elles ont été utilisées, et on le sait, par certains acteurs du secteur pour contourner la loi française et justement bénéficier d'une loi quand même un peu plus facilitatrice pour leurs marges.
Ouais, alors ça, c'est des choses qui sont, comme vous dites, c'est certains, pas tous, visiblement. Et en plus, c'est surveillé. Il y a moyen de surveiller aussi ce qui se passe là-bas et de. La volonté de l'exécutif, c'est de faire appliquer la loi française, donc pour tous les produits qui seront vendus, qui sont sur le territoire français. Il y a des affaires qui sont déjà devant les tribunaux aujourd'hui. Hein. Il y a eu le fameux cas Eurelec.
Oui.
La centrale de Leclerc. Voilà, il y a des moyens effectivement de faire pression d'une façon ou d'une autre sur ces centrales d'achat. Je me permets de revenir juste sur Invivo, parce que vous avez raison, hein, c'est non seulement un énorme acteur français, mais c'est aussi
mondial.
Un gros acteur, ouais, mondial. On parlait
des céréales. Il revenait d'Australie.
Il vient de signer un accord, ouais, un rachat, un deal pour le plus gros acteur de Malte.
Ouais.
C'est-à-dire que voilà, il a une vision 360 et au niveau mondial de ce qui peut aussi se faire ailleurs. Et un retour d'expérience par rapport à toutes ces problématiques.
Et puis, il était quand même très, très, très critique sur la gestion de crise du président Macron, enfin, en disant, oui, le fait de faire un grand débat au sein de l'agriculture, ça n'a vraiment aucun sens.
Oui, en revanche, beaucoup moins critique sur les fameux accords de libre-échange qu'on entend beaucoup de plus petits acteurs critiquer.
Oui, mais parce que lui, c'est un grand acteur mondial.
Et voilà.
Surtout, il est au cœur de cette mondialisation. Mais il explique aussi que pourquoi c'est important, à condition qu'il y ait les mêmes normes, pour tout le monde.
Oui. Je voudrais revenir un instant sur cette histoire des prix planchers. On va écouter un acteur qui en parle aujourd'hui sur l'agriculture. C'est le patron des achats de Danone que BFM TV a croisé, Nicolas Dechet, qui dit, et je ferai réagir Emmanuel là-dessus, qui nous fera un petit cours d'histoire, qui nous dira, on voit pas trop comment on peut appliquer ça concrètement. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
Il n'y a pas de prix unique du lait. Nous négocions et nous discutons, co-construisons nos formules de prix avec nos organisations de producteurs par région. Donc on est ancré dans des territoires autour de nos bassins de collecte, hein. On collecte le lait à environ 60 km autour de nos usines, et donc la réalité d'un bassin en Normandie ou autre part en France n'est pas la même, donc le prix unique pour nous est compliqué à aller chercher.
Voilà le directeur des achats de Danone tout à l'heure au Centre d'Agriculture. Emmanuel faisait un petit peu d'histoire, on l'entendait au jeu dans la Reda, qui nous rappelait que les prix administrés, de toute façon, ça n'a
jamais marché.
Voilà, il faut le dire.
Oui, c'est vrai que c'est... Alors, pour le coup, là, quand même, on a une séquence... je vais répondre à votre question, mais on a quand même une séquence depuis plusieurs semaines. Ou alors là, à chaque fois qu'on cherche la réponse la plus mauvaise au regard de la théorie économique sur tous les sujets, on est gâté, on est sûr qu'on va l'avoir. C'est-à-dire que je ne vous fais pas le dessin sur les nouvelles idées de crédit immobilier de Christophe Béchu qui veut pour faciliter la... Enfin, bref, il y a ça, il y a tout un tas d'autres sujets sur lesquels on utilise les deux pires méthodes qui soient pour résoudre des problèmes. C'est un, proposer des solutions impossibles à mettre en place, et deux, penser qu'on va convaincre le monde entier, ou au moins les pays européens, de faire exactement la même chose que nous. Ce qui ne marche absolument jamais. Donc pour répondre à votre question, oui, effectivement, là on voit bien que cette histoire de prix plancher, quand on se dit comme ça, mais on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la bonne idée, formidable, parce que comme ça on garantit des revenus aux agriculteurs, etc. Mais la réalité c'est que, quand vous rentrez dans le détail des débuts de mise en place, vous vous dites effectivement selon les filières, selon les produits, selon les régions, vous voyez bien que ça va être un truc complètement impossible, et d'ailleurs ça existe déjà, et de toute façon, on voit bien que ça ne fonctionne pas.
Enfin, attendez, parce que ça existe déjà. Comment ça, ça existe
déjà? Ça existe déjà. Les prix de référence.
Les indicateurs de coûts de production.
Les indicateurs de coûts de production dans les filières, filière, ça existe déjà.
C'est censé être utilisé. Oui, d'accord, mais c'est pas pour ça que les agriculteurs ne vendent pas à
perte. C'est censé être utilisé dans les lois Egalim, dans le respect des lois Egalim, etc. Voilà. Alors, en fait, il y a des filières dans lesquelles ça n'existe pas encore parce qu'on n'a pas réussi à les calculer, etc. Donc, on voit bien que ça ne marche pas. Après, quand on a effectivement appliqué ces prix planchers ou les prix plafonds, ce qui était le cas de la PAC avant 1900. Oui. 92, on s'est retrouvé à nager dans des océans de lait et des montagnes de beurre parce que ça provoquait de la surproduction.
Oui.
Il y a beaucoup. Alors, on peut dire, il y a beaucoup de pays qui ont mis en place effectivement ces prix planchers. On pense au Japon, par exemple, sur le riz.
Oui.
Or, on voit que le Japon, ça coûtait tellement cher à la fois à l'État et aux consommateurs que le Japon est en train de sortir de ces systèmes d'aide. L'Inde aussi avait ce système.
Ça peut marcher à certains moments.
Et elle essaye d'en sortir. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Et en réalité,
Le contre-exemple, c'est qu'il patron, mais effectivement, il bosse avec 5000.
Mais ça, c'est des petits exemples.
Oui, oui, bien sûr.
C'est ce que disait Thierry Blondinière, ça
absolument
peut marcher. Voilà, sur
c'est
le lait,
patron,
voilà.
Même Lidl, qui a ses accords effectivement avec 5000 éleveurs, ça passe en direct, ça marche très bien. Voilà. Et donc là où on prend vraiment le problème par le pire des bouts, c'est considérer que cette crise est une crise du secteur agricole, alors que pas du tout.
Non. Il y a un sujet aussi parce que non seulement on en parle en France, mais le président de la République assure qu'il en a déjà parlé à Ursula von der Leyen et que les discussions se poursuivent pour instaurer un prix plancher au niveau européen. Et dans la même séquence, si je puis dire, du côté de l'Élysée, on n'exclut pas déjà de revenir sur cette mesure si les conditions de maintenir une concurrence équitable ne sont pas établies.
Voilà.
C'est-à-dire que les discussions sont à peine entamées que déjà on allume des feux.
Une concurrence équitable établie, là aussi c'est compliqué.
Ça va être hyper compliqué.
Ça va être compliqué, mais alors quand même, pour rebondir sur ce que vous disiez, Emmanuel, si ce n'est pas une crise agricole, c'est une crise.
C'est très simple, c'est qu'en fait, quand vous regardez les problématiques qui sont soulevées par les petits agriculteurs, parce que Edwige l'a très bien dit, toute l'agriculture française ne va pas mal, encore une fois.
Oui.
Et vous vous retrouvez quoi ? Avec des agriculteurs qui souffrent exactement des mêmes problèmes que tous les patrons de petites entreprises, d'indépendants, d'artisans en France.
Complexité administrative.
Donc, le vrai sujet, c'est comment on fait pour rendre compétitif ces petites entreprises, et on revient sur la thématique de la simplification des charges, etc., qui fait que... avec ça, c'est le meilleur moyen d'aider
les
entreprises.
Oui, enfin, c'est pas que ça, parce que juste quand même, le secteur agricole a perdu en souveraineté de manière dramatique.
Oui, mais sur quel secteur ?
Le poulet, l'élevage, le porc.
Sur l'élevage, sur les fruits. Et pourquoi ? Parce que quand ça vous coûte 12 euros de l'heure d'envoyer des gens dans les champs.
On en revient au coût du travail.
Oui,
en France.
Mais c'est bien pour ça que je vous dis que si on simplifie
les mesures qui ont été prises pour le coup.
Les problèmes et qu'on met les PME françaises sur un même plan d'égalité que toutes les autres dans tous les secteurs. C'est pour ça que je dis que c'est une erreur de croire que c'est une crise spécifiquement agricole.
Edwige Chevrier,
reste excédentaire sur le plan de l'exportation. Troisième filière exportation. Pardon, Edwige.
Troisième, absolument. Le poids dans le commerce extérieur. Non, l'autre point que soulignait Thierry Blondinière, le patron d'Invivo, c'est de dire pour le coup, c'est sur les normes administratives
qui sont
obligatoires et qui s'empilent, et que là, il disait qu'il fallait faire, puisqu'il y avait beaucoup d'exceptions au niveau européen, et qu'il fallait à ce moment-là regarder le moins 10 ans pour qu'on se mette tout le monde au même niveau avec les Hongrois, les Bulgares, les Danois, etc. Ça, j'ai trouvé ça.
Alors ça, pour le coup, ça serait à l'inverse de ce qu'on a fait dans les années 60, où on s'était accordé sur le mieux 10 ans, puisqu'on s'était accordé sur les prix allemands, et ce qui avait créé un problème, d'ailleurs.
Mais à l'époque, vous n'aviez pas fait rentrer tous les pays d'Europe de l'Est qui ont des salaires...
À l'époque, on était beaucoup moins nombreux, c'est clair.
Pauline.
On parle de simplification. Ce qui est annoncé aussi du côté de l'Élysée aujourd'hui, c'est qu'à partir de demain, il va y avoir des permanences dans toutes les préfectures pendant deux mois. mois, permanence au cours desquelles les agriculteurs de partout pourront venir porter leurs sujets, et notamment les sujets de trésorerie, parce que ça aussi c'est un sujet qui est très très important. Ils vont recenser à partir de là les problèmes visiblement qui ont lieu ici et là. Voilà, mais on parle de simplification. Dominique Chargé, le patron de la coopération agricole, le dit clairement, et comme vous l'avez dit très bien Emmanuel, les sujets c'est simplification, compétitivité. Il a publié aujourd'hui une liste de 50 mesures clés en main pour le président de la République, qui avait d'ailleurs, nous dit-on, oublié de l'inviter vendredi à son déjeuner d'avant salon de l'agriculture, alors qu'il représente quand même un... énormément de chiffres en France. Bon, bref, voilà, il y a des acteurs comme ça qui ont des propositions très concrètes et qui misent sur la simplification plutôt que sur l'empilement des normes et des règles.
Et d'ailleurs, il y a la question de la FNSEA qui a fait plus de 60 propositions il y a 15 jours. Pourquoi n'ont-elles pas été entendues ?
Et les experts comptables qui ont 13 propositions, ils savent de quoi ils parlent, les experts comptables. 13 propositions majeures sur la simplification. Donc, toutes les propositions sont sur la table.
Mais il y en a sur lesquelles ça avance. Il faut aussi, voilà, il y a du travail qui est
On posera toute la question demain, parce que mon invité, c'est la ministre de l'Agriculture, déléguée.
Ça tombe bien.
Agnès Pannier-Runacher, qui sera là. On pourra lui poser toutes ces questions.
Et on a bien lu. Donc, réunion demain à Bercy autour de Bruno Le Maire, de Marc Fesneau, pour parler de la trésorerie des agriculteurs. Comment les aider? Il y aura des agents du fisc. Des banques, des assurances, de la mutualité sociale agricole aussi.
Parce que ce qu'on n'a pas précisé pour nos auditeurs, c'est qu'en effet, samedi, Emmanuel Macron s'est précipité sur ses prix planchers, mais il a aussi annoncé des aides immédiates aux trésoreries des exploitations en difficulté.
On suivra ça demain, évidemment. Casino, il faut qu'on en dise un mot, évidemment. Pauline, avec vous, qui suivez le dossier, le feuilleton, comme on l'appelle ici depuis des mois. Ça y est, donc la justice valide le plan de sauvegarde de Casino. Ça veut dire que Kretinsky, l'adresse de la Charrière et consorts ont les clés du camion. Ça y est, Pauline.
Il n'y avait pas beaucoup de surprises. Avait pas beaucoup de surprises. Même les syndicats attendaient cette décision et jugent ce feu vert assez rassurant, parce que si ce n'était pas ça, c'était le redressement judiciaire. Et c'était pire. Voilà, comme vous le dites, ils ont les clés du camion. Alors, officiellement, ils seront propriétaires le 27 mars. Mais quand même, dès à présent, ils ont accès aux locaux. Ils ont un accès direct aux équipes qui sont déjà en place. Ils ont accès à certaines données auxquelles ils n'avaient pas accès, nous dit-on, du côté de ces repreneurs. Donc, ils vont pouvoir passer la seconde et peut-être aussi apporter des réponses plus précise à ses représentants des salariés qui demandent depuis plusieurs semaines et plusieurs mois des détails,
des précisions,
que ce soit sur le PSE, l'accord des méthodes ou l'avenir des entrepôts. Ils demandent des chiffres. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, en tout cas, ils espèrent, les syndicats, ils nous disent carrément que demain, il y a un nouveau jour qui va se lever avec des informations qui vont tomber et qu'on va enfin leur dire à quelle sauce ils vont être mangés.
Pauline, alors en effet, c'est un grand ouf de soulagement pour Casino qui en effet évite la cessation de paiement. En revanche, Daniel Kretinsky, qui s'est exprimé par voie de presse, estime que le chemin est encore long.
Pourquoi ? Par communiqué de presse, parce qu'il y a effectivement les cessions de magasins qui vont avoir lieu là à partir du mois d'avril. C'est-à-dire que tous les magasins qui ont été cédés à Intermarché, à Auchan, à Carrefour, et puis les 26 qui restent, il va bien falloir que ces transferts aient lieu. Il y a la restructuration, il y a l'épuration de la dette, il va y avoir 1,2 milliard d'euros d'argent frais qui vont être mis, et puis il reste Monoprix, il reste Franprix, il reste ces discounts. Monoprix, on pouvait lire dans la presse ce week-end que certains observateurs estiment qu'il va falloir 1 milliard d'euros rien que pour Monoprix. Le consortium, il a promis d'apporter 1,2. Certains observateurs disent que ce sera 1 milliard juste pour Monoprix. Il y a aussi Franprix, il y a aussi les magasins de proximité.
Monoprix, Franprix n'ont pas vocation à quitter le groupe.
Il va falloir réinvestir et un maximum pour pouvoir relancer le groupe.
Oui, parce que j'ai envie de dire, on n'en sait rien, parce que Kretinsky, au départ, ce n'est pas ce qu'il avait acheté. Il avait acheté le groupe Casino, ce qu'il voulait acheter avec les hyper. Là, il ne reste plus aucun hyper, si ce n'est les 26 qui n'ont pas trouvé repreneur. Et on a vu que Thierry Blandinière se disait peut-être, mais enfin, c'est sûr que ce n'est pas les meilleurs.
Monoprix, c'est la pépite.
Oui, c'est de la pépite, mais c'est un peu différent. On a le magasin de proximité et il faut mettre encore beaucoup d'argent, parce que c'est pas les 1,2 milliard qui vont suffire.
En tout cas, donc les actionnaires actuels vont être évidemment massivement dilués avec cette opération de restructuration. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est la fin de 30 années de règne de Jean-Charles Naouri.
Dont on ne sait pas encore.
Ne sait pas encore s'il va rester ou pas dans
son poste, son rôle après, dans son avenir et pas.
Ouais.
Non, donc, je pense que son avenir est assuré. Oui. Oui. Je pense que pas.
Alors, déjà, ce qui est exposé là, je pense qu'il n'y a pas.
C'est pas le président qui a les inno, mais son avenir est assuré.
Donc, il y aura plusieurs assemblées générales au printemps, et puis le nouvel organigramme va se mettre en place.
Augmentation de capital dans les semaines qui viennent. 27 mars, ils prennent le contrôle officiel du groupe. Derrière, assemblée générale, nomination de l'équipe autour du patron Philippe Palazzi, qui travaille déjà comme depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois peut-être, avec une ou deux têtes qui sont déjà connues. Et puis, le reste de l'équipe va se constituer. Et puis, derrière, je vous ai dit, première session. Avril, etc. Ouais. Bon, ça concerne plus les repreneurs.
La question du siège,
Du siège, et la question du siège,
de Saint-Etienne, qui reste symbolique et en même temps
politique. Mais que cette équipe de Daniel Kretinsky a assuré qu'elle maintiendrait. Donc, comment, pourquoi, avec qui ?
Pas loin de 2000 salariés au siège. Politiquement, comme vous dites, effectivement, on voit mal le gouvernement laisser le siège de Saint-Etienne.
Les repreneurs se sont engagés, en tout cas, à le préserver.
Oui, moi, j'attends de voir.
On va suivre ça de près. Alors, pour réveiller Emmanuel Le Chypre, on va parler de cette étude qui nous vient tout droit de l'Observatoire européen de la fiscalité et qui nous dit, calcul à l'appui, que taxer le patrimoine des milliardaires à hauteur de 2% au sein de l'Union européenne rapporterait 40 milliards d'euros par an, eux qui ne payent que 6 milliards d'euros d'impôts par an.
Bah, la belle
affaire. Qu'est-ce que vous en dites, Emmanuel ? Pour ou contre ? Bonne ou mauvaise idée ?
Rien, c'est une idée anecdotique.
Bah, c'est une idée qui n'est pas très nouvelle, en réalité.
C'est une idée qui, à force de vouloir... Enfin, le constat assez triste, finalement, qu'on peut faire, c'est qu'une fois de plus, on va se rendre compte que essayer de réduire à tout prix les inégalités, ça appauvrit tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas parce que, ça appauvrit les riches, et deux, c'est pas parce que vous rendez les riches moins riches que ça rend les pauvres moins pauvres.
Et en même temps, c'est pas ce que nous dit Thomas Piketty.
Et en même temps, d'accord, mais en même temps, 40 milliards d'euros, ça sert à quoi ? C'est-à-dire, quand vous voyez tous les enjeux, enfin, en gros, c'est un zéro de moins par rapport à tout ce qui serait nécessaire sur tous les sujets pour avoir un peu d'impact. C'est-à-dire, c'est clair, si vous voulez sur la transition écologique, si vous voulez sur la voiture électrique, si vous voulez sur tous les sujets où il y a besoin d'argent et besoin d'investissement, il faut rajouter au moins un zéro. Donc, 40 milliards, si ça fait plaisir de taxer en plus on n'a pas très bien compris sur quoi on voulait les taxer. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on veut les taxer ? Apparemment, on parle de leur patrimoine et donc tous les ans. En même temps, on parle de leurs revenus. Donc c'est des idées, encore une fois, c'est à rajouter à la longue liste des propositions stupides que on voit émaner de la majorité depuis plusieurs semaines.
L'Observatoire de la fiscalité,
enfin, rappelle, c'est Bruno Le Maire qui a lancé cette idée.
C'est ce laboratoire de recherche dirigé par l'économiste français Gabriel Zucman, qui s'est dit.
Nos finances publiques n'ont jamais été aussi délabrées. On n'a jamais été aussi peu un modèle pour le reste de l'Europe et on n'a jamais autant voulu imposer toutes nos idées, toutes nos visions, toutes nos propositions à l'Europe.
Et que le montant des prélèvements obligatoires est un des plus élevés d'Europe.
Oui.
Faut quand même le rappeler.
Ah oui, absolument. Donc, mais
ça veut dire que l'impôt ne crée pas la richesse.
C'est vrai. Mais ce qui est intéressant de souligner, rappelez-vous, il y a plusieurs mois, c'était en juin dernier, un petit groupe d'économistes, de militants, de personnalités politiques et de milliardaires, justement, avait déposé ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne pour réclamer la mise en place de cet impôt. Donc c'est quand même intéressant de voir que les ultra-riches sont les premiers à le réclamer, cet impôt.
Bah, ils sont pas fous. Ils savent que ça l'en. Fondamentalement, ça ne va pas les appauvrir tant que ça, même si effectivement, c'est quand même pas une bonne idée parce que c'est quand même un frein à l'investissement, etc. Mais après, encore une fois, ça ne changera pas la face du monde. Donc si ça nous donne bonne conscience de taxer les quelques centaines de
riches. Non, mais il y a quand même une grande partie de cette fortune-là qui est sous-taxée, voire non imposée à travers les dispositifs fiscaux que l'on connaît.
Mais
à partir du moment où on cherche de l'argent partout. Pourquoi s'en passer ?
Edwige.
Pourquoi s'en passer ? Parce qu'encore une fois, c'est de l'argent qui n'est, c'est pas de l'argent qui dort, c'est pas de l'argent qui ne fait rien. Et vous pouvez, après, si ces gens-là ont envie de partir, bah, ils partiront. Et puis,
Ruissellement, ça y est, nous
sommes. Non, mais je veux dire, franchement, si on avait que ça comme problème, ce serait quand même merveilleux.
J'ai envie de dire, à propos d'argent qui dort, il faudrait presque mieux taxer l'assurance vie, parce que là, l'argent il dort un peu trop. Vous expliquera Bruno Le Maire qui essaye de faire un produit d'épargne européen.
Oui, c'est ce qu'il a annoncé en fin de semaine. Oui,
bonne chance, il y arrive.
Les Allemands,
si qu'on va les Français, ça va être plus compliqué.
Edwige, vous suivez le sujet comme moi depuis longtemps. l'unification du marché européen des capitaux.
Je crois que c'est depuis qu'on est né,
voilà.
C'est vous dire.
Donc, si vous voulez, c'est un combat que beaucoup de pays essayent de mener. On n'y arrive pas. Donc, essayez d'imaginer le lancement d'un produit d'épargne au niveau européen, etc. On peut tout proposer.
Non, mais là, on parle de 40 milliards. Et en plus, parce que c'est Joseph Stiglitz qui a préfacé le rapport en question, qui dit que ces recettes sont indispensables à la bonne cause pour financer les grands défis de demain. Éducation, santé, infrastructure, technologie.
Transition climatique.
Climatique, évidemment. Vous l'entendez, cet argument.
Donc, avec 40 milliards, on va résoudre.
Je ne dis pas qu'avec 40 milliards, on fait.
Mais d'ailleurs, c'était aussi une des propositions du fameux rapport Jean Pisani-Ferry.
Mais d'ailleurs, cette étude, je ne comprends pas pourquoi ça sort maintenant, parce qu'elle est vieille.
Oui, elle est vieille, c'est pour ça que je ne comprends pas.
C'est une étude ça a 6 mois.
Parce que Bruno Le Maire en a reparlé, parce que
les chiffres des 0,002, des 650 000 euros, des 40 milliards, c'est un truc qui date du mois de juin.
De toute façon, comme
c'est juste, c'était un petit propos de Bruno Le Maire, je crois.
Oui, de toute façon, tant qu'on n'aura pas réussi justement à mobiliser les parcs des particuliers, comme vous le disiez, pour financer des gros projets, que ce soit l'assurance vie, que ce soit la création. On a essayé de lancer je ne sais combien de produits d'épargne en France, justement.
Pour essayer de convaincre d'investir dans les entreprises.
Ça fait des années.
L'autre serpent de mer, effectivement, c'est le fléchage de l'épargne.
Le fléchage.
Alors, justement, avec un montant d'épargne en France aujourd'hui qui est un montant historique.
Oui.
Ils ont juste envie de pousser vers la dette de l'État. C'est ça qui plaît aux
Français.
Ils ont peur des PME, investir dans une PME qui n'est pas suivie par des analystes financiers, donc vous ne savez pas grand-chose.
Oui.
C'est compliqué, même si ça avait passé au Tamis, de la BPI, etc. C'est pas évident de demander ça aux Français. Ça serait nécessaire. Je suis d'accord avec vous, mais il faut convaincre.
Et après, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire la fameuse corrélation entre le niveau d'épargne des ménages et le niveau d'endettement de l'État. Et on sait très bien qu'il y a toujours, quand la situation des finances publiques est catastrophique, une tendance des ménages à surépargner en se disant, oulala, qu'est-ce qui va nous tomber dessus comme hausse d'impôts, etc. Et donc on est vraiment dans ce cercle vicieux aussi.
Bon, combien de temps on va attendre à la fois avant qu'on nous ressorte l'idée du grand emprunt ou quelque chose de cet acabit pour vous? Voilà, le dernier grand emprunt, c'était quand en France?
C'était Sarkozy qui l'avait lancé, le grand emprunt. C'était Nicolas Sarkozy avec son grand emprunt.
Oui.
Avec un succès relatif.
Donc, quand on sait qu'il y a quoi, aux alentours de 3 000 milliards d'euros d'épargne qui dorment en France sur les comptes courants, produits divers et variés.
Alors après,
le produit pour vous qui saurait faire sortir l'argent, est-ce qu'il existe?
C'est taxer l'assurance vie. C'est moi qui ai lancé le débat.
1 700 milliards, je crois que
vous taxez l'assurance vie, alors là, je peux vous dire, il se passera des choses.
En cours de l'assurance vie à 1 700 milliards.
Mais vous serez battu aux élections.
Bon, on va avoir le courage de le faire, là.
Après, le problème de l'épargne, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que personne n'a les mêmes besoins, personne n'a le même horizon, et personne n'a les mêmes moyens, et personne n'a la même structure d'épargne. Donc, dire qu'il y a un produit comme ça qui serait une martingale, le plan d'épargne retraite, c'est quand même une avancée, c'est quand même quelque chose qui est assez,
assez intéressant. Élargir, c'est ce qui est, du reste, il y a une réflexion en cours. Élargir le livret A, qui pour l'instant sert à financer
le fameux livret.
Et de l'élargir justement à d'autres transitions écologiques, au nucléaire justement. Mais donc à l'élargir sur d'autres points, ça peut être une solution.
Et en même temps, pour faire en sorte que les gens épargnent moins, il faudrait aussi que le contexte géopolitique et économique soit moins incertain.
Voilà. Là, on refait le monde, là.
Eh oui, et on n'a pas le temps parce qu'il reste une minute.
Et il reste une minute trente. Voilà. Le fléchage, j'ai oublié que c'était le fléchage.
Le fléchage de l'épargne. À chaque fois, on promet le produit miracle qui va permettre de diriger l'épargne vers l'investissement. Le problème, c'est que les Français, ils aiment l'immobilier, ils aiment la pierre, et le livret A, et l'assurance vie.
Est-ce qu'on peut vraiment le reprocher?
Non, parce que c'est le produit d'une histoire et d'une culture.
Voilà pour le fléchage qui n'est pas pour demain matin. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés ce soir. Emmanuel Lechypre, Pauline Tadevin, merci beaucoup Pauline. Edwige, donc à demain, 18h10 avec Agnès Pannier-Runacher. L'agriculture, faut suivre. Maintenant, elle a changé de crèmerie.
Oui, elle est passée ministre déléguée. Cela dit, ça peut être intéressant. C'est quelqu'un qui peut faire ce qu'elle a fait dans l'énergie. Elle est très industrielle. Ouais. Elle connaît bien l'industrie. Donc, c'est d'établir des filières, essayer de mettre un tout petit peu d'ordre. Et ça pourrait venir en appui.
Mais elle a le bon profil pour tous les dossiers techniques.
Oui, exactement.
Et donc, c'est
grosse bosseuse.
C'est intéressant ce que vous dites dans le sens où Emmanuel Macron disait ce matin qu'il aimerait faire avec l'agriculture ce qu'il a fait avec l'industrie.
Voilà.
Et bon, on verra demain soir. Agnès Pannier-Runacher, donc demain soir à 18h10 avec Edwige. Merci beaucoup. 18h57, nous on revient dans un instant, évidemment.
Oui, avec un casting de choc. Ils ne sont pas trois ce soir, nos experts, mais ils sont quatre. Oui. Beaucoup de sujets. On va parler du marché de l'automobile électrique, mais pas que.
On va parler de casino, bien sûr, et puis de tous les sujets qu'ont fait l'actu ces dernières heures. Il y en a beaucoup. On est ensemble jusqu'à 20h en direct sur BFM Business.
À tout de suite.